Pour cette deuxième partie de ce radiobarque, Hervé Barreau, on va aller faire un tour à Carcassonne sur le département, puisque vous êtes aujourd'hui d'ailleurs premier vice-président du conseil départemental, qu'on appelait autrefois général, mais enfin de temps en temps on rebaptise. Merci. Alors ça veut dire aussi que vous êtes conseiller cantonal, conseiller départemental sur, sans doute, le canton des Corbières, celui qui comprend terme. Quel est votre... alors, les vice-présidents ont toujours une délégation, hein, c'est normal, j'imagine. Quelle est la vôtre à Carcassonne ?
Le premier vice-président a la particularité de pouvoir
d'abord d'être
suppléer,
le premier
voilà,
vice-président.
Pouvoir suppléer la présidente, ce que je fais quand elle me le demande, que je faisais aussi à l'époque où André Viola était président. Et puis, bon, du point de vue de mes responsabilités, je m'occupe de ce qu'on appelle la solidarité territoriale, c'est-à-dire... peut-être pour être plus précis, l'aménagement du territoire, donc ce qu'on appelle l'aide aux communes, le soutien aux communes, le soutien financier aux communes, le tourisme, qui fait partie de mes compétences, les grands projets comme le canal du Midi, les aménagements sur le canal du Midi, le pays Qatar, à la fois la marque et le programme territorial. Voilà, ça fait partie de mes attributions au niveau du département.
Oui. Alors, les solidarités territoriales, c'est un mot assez passe-partout. Bon, on comprend que ça veut dire qu'il y a une aide apportée par le chef-lieu à certaines communes, mais comme il y a en France des strates d'intercommunalité, enfin de gouvernance très différents, on sait que la région peut aider, l'intercommunalité, les com-com ou les agglos peuvent aider, à chaque fois avec des compétences un petit peu particulières. Alors, le département, dont on sait que son rôle essentiel, c'est le social, et puis la gestion des collèges, mais lorsqu'il s'agit d'apporter, par exemple, des aides au département, aux communes, c'est sur quels critères et sur quels domaines ?
Alors, la loi NOTRe a supprimé ce qu'on appelait la clause de compétence générale, c'est-à-dire que le département pouvait intervenir dans tous les domaines. Donc, la loi NOTRe a supprimé cette clause et a cantonné, si je puis dire, le département dans l'aide aux collectivités locales. On a retiré au département, en particulier, l'aide à l'économie, c'est-à-dire aux structures privées, ce que nous faisions en lien, bien sûr, avec la région et avec les intercommunalités ou les agglos. Donc désormais, c'est sur l'aide uniquement aux communes et aux intercommunalités qu'on intervient, et on intervient sur la quasi-totalité des domaines, sachant qu'il y a des domaines qui sont des domaines partagés, comme la culture ou comme le tourisme, où on peut avoir des interventions diverses. Nous, on est sur, s'agissant de l'aide aux communes en particulier, la voirie, les bâtiments publics, c'est-à-dire les crèches, les écoles, les mairies, enfin en tout cas tout ce qui est bâtiment public, les programmes d'embellissement, les traverses d'agglomération, voilà, qui sont dans le domaine de compétences du département. Au-delà, bien sûr, de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le côté social, hein, qui est 50% à peu près du budget du département.
Alors, les voiries, justement, ça aussi, depuis quelque temps, quand on sait que les anciennes routes nationales sont devenues départementales, comme la 113, etc., c'est devenu un chapitre important des responsabilités du département. Quelle proportion ça prend aujourd'hui ?
La voirie, alors, quand on parle de voirie, il y a les voiries communales,
oui.
Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dans l'aide aux communes, hein, voilà, qui relève de la compétence communale, mais pour lesquelles on apporte des soutiens. Et puis il y a la voirie départementale, c'est-à-dire toutes les routes départementales. Et dans le département de l'Aude, il y a une caractéristique, vous l'avez souligné, il ne reste plus que des routes départementales. Donc le budget des routes... est un budget essentiellement d'investissement. Il s'élève à 35 millions d'euros par an, la réfection et l'entretien des routes, auxquelles, bien sûr, il faut ajouter les dépenses de personnel, puisque nous gérons tous les personnels routiers qui appartenaient les anciens cantonniers, hein, si on parle de temps anciens, les agents de travaux, qui appartenaient à l'État, qui ont été transférés au lendemain des années 80, dans le cadre des processus de décentralisation, qui a consisté à confier au département un certain nombre de missions, les collèges en particulier, et les routes. Voilà, donc aujourd'hui, on est sur probablement quelque chose, quand on rajoute les personnels, qui est entre autour de 150 à 200 millions d'euros en termes de fonctionnement et en termes d'investissement.
Oui. Alors 35 millions, ça c'est quoi? C'est l'investissement uniquement.
35 millions, c'est l'investissement.
Oui. Alors pour le reste, pour le fonctionnement, on le voit, c'est beaucoup plus.
C'est beaucoup plus important.
Notamment à cause du personnel.
À cause du personnel.
Oui. Et on a parlé de tourisme et on en parle encore, forcément. D'ailleurs, avec le maire d'une commune comme terme, on parle. Mais vous avez pris la présidence de l'ADT, c'est-à-dire l'Agence de développement touristique. Là aussi, une compétence du département. Donc, venons-en un petit peu à cet aspect-là. Alors, c'est pas simple pour les auditeurs et les citoyens moyens, parce que les communes font du tourisme, les intercos parfois en font aussi, les départements en font. Comment ça s'articule, même la région d'ailleurs, comment ça s'articule? Quel est exactement le créneau sur lequel un département exprime sa singularité?
Alors, comme vous le dites, le tourisme fait partie des... ce qu'on appelle des compétences partagées, c'est-à-dire plusieurs collectivités et organismes semi-publics ou semi-privés peuvent intervenir ou interviennent. Donc le rôle du département en termes d'organisation touristique, c'est d'abord de travailler avec les professionnels, c'est les organisations professionnelles, de travailler avec les offices du tourisme, parce que vous avez oublié cette strate dans votre énumération, voilà, comme l'office du Grand Narbonne ou... ou les
voilà,
offices de tourisme.
Qui deviennent petit à petit intercommunautaires.
Qui deviennent petit à petit intercommunaux. D'ailleurs, je vais rencontrer prochainement le président de Grand Narbonne Tourisme et le vice-président de l'agglomération de Narbonnaise sur ce sujet.
Monsieur Pi, alors oui, le vice-président.
Le vice-président, oui. J'ai dit le président, peut-être, je me suis... Pardon. Donc, l'objectif de notre démarche en tant qu'agence départementale, c'est effectivement d'abord de porter un certain nombre de messages et donc de promotions qui sont... soit des spots publicitaires ou des documents papier, pour pouvoir drainer vers nous le touriste, pour l'amener à circuler et à connaître les richesses de ce département. Donc on est obligé de s'appuyer là-dessus sur les professionnels qui connaissent, eux, parfaitement leur métier, qui ont besoin d'un soutien d'un organisme comme le nôtre pour se faire connaître à l'extérieur et pour présenter les caractéristiques et les richesses de ce département. C'est ça le rôle de l'agence en quelques mots.
Fédérer un petit peu.
Fédérer et donc discuter aussi, hein, puisque vous avez parlé de strates, hein, discuter avec le comité régional du tourisme pour... être inséré dans un ensemble beaucoup plus vaste, puisqu'aujourd'hui, vous savez, les tourismes... Alors, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le bon mot, parce que la pandémie rebat les cartes sur ce sujet, ce qui pose beaucoup de questions, beaucoup de problèmes, d'ailleurs, aussi. Mais d'une manière générale, l'appui de la région est quand même quelque chose de très important pour le développement touristique des territoires.
Et alors, au point de vue touristique, vous avez alors pas vous personnellement, mais dans une équipe, un autre projet. Alors, nous avons déjà depuis pas mal d'années un parc naturel régional en Narbonnaise. Vous en prévoyez un qui est prêt à aboutir, je crois, Hervé Barrault, qui serait un PNR à cheval sur Corbière et Fenouillèdes. Dites-nous où est-ce que vous en êtes.
Eh bien, c'est cela, oui. On porte un projet. Alors, j'assure la présidence du syndicat mixte de préfiguration de ce parc. Ce projet a été mis au centre du débat il y a une dizaine d'années. Donc, on travaille depuis 10 ans sur l'émergence de ce projet. Et aujourd'hui, effectivement, nous arrivons à la fin de la procédure, puisque nous attendons, dans le courant du premier semestre de cette année, la signature du décret par le Premier ministre qui va porter création de ce PNR. Nous avons franchi toutes les étapes, fait valider la charte. C'est un parc qui comportera 99 communes, à cheval sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Deux tiers de ces communes sont dans l'Aude, un tiers dans les Pyrénées-Orientales. C'est un projet extrêmement important qui assurera d'ailleurs la continuité en termes de parcs naturels régionaux entre le parc de la Narbonnaise et le parc des Pyrénées catalanes, puisque il y a de part et d'autre des points de jonction, notamment dans l'Aude, hein, pour situés géographiquement, les points de jonction sont par exemple entre Durban et Villesèque des Corbières.
Et alors justement, cette continuité territoriale, qu'est-ce que ça va vous offrir de plus ?
Ben, vous savez, ça va nous offrir de pouvoir travailler avec les deux parcs sur des thématiques qui sont spécifiques aux uns et aux autres. Par exemple, hein, si, parmi les travaux envisagés avec le parc de la Narbonnaise, il faudra qu'on travaille sur la continuité entre les étangs, la zone des étangs, et puis la zone qui se trouve en amont, qui se trouve dans le parc des Corbières du Fenouillet. La rivière de la Berre, par exemple, hein, prend naissance dans le parc des Corbières Fenouillet et arrive jusque dans les étangs. Donc il y a sur les problématiques de préservation, sur les problématiques de biodiversité, des questions que nous devons approfondir, travailler avec nos amis de la Narbonnaise.
Voilà, puis un dernier point, Hervé Barrault, les PNR, contrairement à ce que certaines personnes pensent, ça sert aussi un dans une certaine mesure au développement économique, hein, c'est pas du tout de la conservation pure. Qu'est-ce que ça offre comme perspective, ce nouveau PNR ? Alors combien de communes dites-vous ?
99.
Presque la
centaine. Oui.
Qu'est-ce que ça offre comme perspective ?
Alors vous avez raison, et je vous remercie d'insister sur ce point. Les PNR ne sont pas, à la différence des parcs nationaux, ne sont pas des zones de protection dans lesquelles il est interdit de faire. Là, nous sommes sur un vrai projet de territoire, un vrai projet de développement. Et donc nous avons quelques axes de travail qui correspondent d'ailleurs à ce qu'est la réalité du territoire autour de l'agriculture. Donc l'apport que le parc peut apporter en termes de développement agricole et de soutien à une agriculture qu'on qualifie de familiale, puisque c'est le modèle agricole de ce territoire. Et puis aussi la question touristique, hein, puisque il y a aujourd'hui dans le souhait des touristes le besoin, ou dans les envies, le besoin d'avoir des territoires qui sont quand même malgré tout préservés, dans lesquels la nature est quasiment intacte. Et donc c'est à partir de cette réalité territoriale que nous entendons développer les atouts du territoire, aussi bien dans l'agriculture que dans le tourisme.
Voilà. Ce PNR, si je ne me trompe, contient pratiquement l'ensemble de ce qu'on appelle les châteaux cathares.
Alors le PNR contient les cinq fils de Carcassonne, qui sont tous les cinq candidats au patrimoine mondial de l'UNESCO avec la cité de Carcassonne, plus des châteaux comme Villerouge ou une abbaye comme l'abbaye de la Grasse.
Voilà.
Le château d'Arc, etc.
Oui, donc on le voit, un patrimoine historique et architectural
tout à fait.
Assez prestigieux.
Tout à fait.
Merci Hervé Barrault, on marque une deuxième pause. On vous retrouvera un tout petit peu plus tard après la pause et on va apprendre à vous connaître, vous, personnellement, un petit peu mieux.